Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Émission préparée par Céline Leclerc, Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Kiran Gessel et réalisée par Jean-Christophe Francis. À la prise de son, Emmanuel Morse-Duncan. Qu'y a-t-il de plus déprimant qu'un magazine qui vous serine à longueur de pages que tout va mal en France ? Eh bien, un magazine qui cherche à vous convaincre de l'exact contraire. Ainsi, la dernière livraison de la revue Oui Demain, un trimestriel qui proclame en une que tout va bien et qui ambitionne de nous redonner le moral via un dossier de 44 pages. Alors, qu'y apprend-on ? Que Carrefour occupe le quatrième rang mondial du secteur de la grande distribution, que Michelin est le deuxième fabricant de pneus, comme Pernod Ricard dans le domaine des alcools et spiritueux, que la France est numéro un au hit-parade de la musique électro, qu'il y aura plus de Français que d'Allemands en 2050. Allez, une dernière pour la route. Que nous avons, je cite, des intellectuels de classe mondiale. Bref, que tout va bien. Alors, il n'est pas question ici d'accabler un magazine qui a le mérite d'essayer d'offrir autre chose que le discours décliniste ambiant. Mais il y a quelque chose d'artificiel dans cette démarche qui relève autant de l'analyse des faits que de la méthode Coué, voire de la positive attitude, celle-là même qu'entendait promouvoir un ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, pour ne pas le nommer. Alors on pourrait la résumer ainsi. Malgré la crise, cessons d'être pessimistes puisque les raisons d'être heureux ne manquent pas. Sauf que l'effet obtenu n'est peut-être pas celui escompté. Alors la recherche du bonheur nous rend-elle pessimistes ? C'est notre sujet du jour. Et trois invités pour en discuter. Claudia Sénic, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeure à l'Université Paris-Sorbonne et à l'École d'économie de Paris. Vous venez de publier L'économie du bonheur, c'est une coédition, La République des idées, Le Seuil. Dans cet ouvrage, vous vous interrogez notamment sur le lien qu'il peut y avoir ou pas entre croissance économique et bonheur. Pour discuter avec vous, Claude Almos, bonsoir.
Bonsoir.
Psychanalyste, bien connu des auditrices et auditeurs de France Info, puisqu'on vous retrouve chaque samedi dans la chronique Savoir-être. Vous avez beaucoup travaillé sur l'enfance, mais c'est un domaine un peu plus large que vous vous intéressez dans votre dernier ouvrage, qui s'intitule « Est-ce ainsi que les hommes vivent ?» Face à la crise et résister, c'est publié chez Fayard. Notre troisième invité est philosophe, il s'agit d'André Guigaud. Bonsoir.
Bonsoir.
Philosophe spécialiste de Jean-Paul Sartre, vous êtes essayiste et enseignant. Et au printemps dernier, c'est un ouvrage qui est un petit peu plus ancien, mais enfin vraiment pas beaucoup, vous avez publié « Pour en finir avec le bonheur » aux éditions Bayard. Alors pour commencer cette émission, j'hésitais à choisir un de vos trois livres, je me suis dit ben, je vais en choisir un quatrième, comme ça il n'y aura pas de jaloux. C'est le fameux suicide français d'Éric Zemmour. Alors, je ne vais pas vous demander de commenter ce qu'il y a dedans, hein, mais bon, on peut résumer, c'est l'idée que les 40 dernières années ont défait la France. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le succès éditorial. Alors, on entend des chiffres peut-être un peu farfelus, d'ailleurs, par moment. Le livre en serait pas loin des 300 000 exemplaires. C'est ce que disent certains journaux. Il paraît que c'est quand même nettement surévalué. En tout cas, ce qui est indéniable, c'est que le livre se vend très bien. Moi, je me disais, est-ce que acheter comme ça massivement un livre qui s'intitule « Le suicide français », c'est significatif de quelque chose et peut-être de quoi, d'une profonde déprime aujourd'hui en France, Claude Almos.
Moi, je pense que c'est une façon de dévoyer quelque chose qui est réel et qui fait que moi, j'ai écrit le livre que j'ai écrit, qui est la souffrance qu'éprouve aujourd'hui une majorité de la population à cause de la vie sociale, à cause de la crise économique. Et je pense que le livre de Zemmour, que je n'ai pas encore lu, je ne suis pas sûre que j'aurai le courage de le lire, mais pour tout ce que j'en ai lu, me semble une façon vraiment de partir de là et de dévoyer. Enfin, je dis dévoyé au sens que c'est évidemment pas un livre qui va permettre aux gens de s'emparer de leurs problèmes et de se battre contre et de faire avancer les choses, hein, ou d'aller mieux eux-mêmes. C'est exactement la même chose que ce que fait en politique le Front National, c'est-à-dire parler aux gens de leurs problèmes et de leurs souffrances pour les amener dans son camp et finalement les manipuler, puisque j'en parle dans mon livre. D'ailleurs, on sait bien que dès que le Front National est au pouvoir quelque part, il commence par taper sur les plus faibles.
Donc une forme de complaisance à se dire malheureux et sur le déclin.
Une façon vraiment de dévoyer. On parle d'une vraie question et on en parle. Et Zemmour, je pense, il a d'autant plus de facilité que justement on ne parle pas de ses souffrances sociales. Les gens, c'est pour ça que moi j'ai écrit mon livre. On ne parle pas de ses souffrances. Donc lui, il arrive là et puis il parle de tout ce qui ne va pas. Les gens se jettent dessus sans voir qu'ils sont quand même manipulés puisqu'on dévoie encore une fois leurs questions.
André Guigaud,
si la souffrance sociale est
est décrite. Je ne l'ai pas lu le livre non plus, donc je ne sais pas.
Je ne sais pas si Claudia Sénic l'a lu, mais si vous ne l'avez pas lu non plus, on est écarté quand même autour de cette table. Non, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ça fonctionne auprès du public.
Si ça fonctionne, mais si la souffrance sociale est hors contexte et hors contexte historique, c'est vrai que Zemmour, il a un boulevard devant lui. Le fait de décrire la souffrance à partir de la thématique du déclin, par exemple, si c'est de cela dont il s'agit, alors évidemment, il a un boulevard, parce que plus personne parle maintenant de contexte historique et social de la souffrance.
Moi, ma question, en fait, c'était de se dire, finalement, si ce succès éditorial traduit un profond pessimisme de la part des Français. Alors, la question, il faut peut-être la poser autrement, finalement, Claudia Sénic, c'est est-ce que, véritablement, comme semble le dire un certain nombre d'études, les Français sont particulièrement pessimistes, voire malheureux?
Ils le sont plus que les autres Européens. En tout cas, c'est ce que reflètent les enquêtes où on leur demande, on leur pose directement la question, savoir... À quel point ils se trouvent heureux, à quel point ils sont optimistes quant à l'avenir, et des questions plus précises qui mesurent leur optimisme ou leur pessimisme. Peut-être que le succès de ce livre que je n'ai pas lu non plus, donc j'en parle très à l'aise, mais j'ai cru comprendre que le mot déclin, c'est quand même l'idée que le passé est désormais hors d'atteinte, qu'il était merveilleux, qu'on s'en éloigne chaque jour, et donc on va dans la mauvaise direction. Donc c'est
mais ça, dans votre livre, justement, vous dites, c'est une des raisons du pessimisme français. Alors c'est peut-être un peu bizarre, d'ailleurs, c'est une émission qu'on est censé consacrer au bonheur, et puis on est tout de suite sur le malheur et le pessimisme. Mais vous dites finalement c'est une raison, ça fait partie des raisons un peu culturelles de ce fort pessimisme français. Il y a même une phrase moi, qui m'a fait un petit peu sursauter dans votre livre, Claudia Sénic, c'est « Le seul fait de vivre en France réduit de 20% la probabilité de se déclarer très heureux ».
Oui, c'est-à-dire que quand on a dans des conditions de vie identiques, deux individus qui ont à peu près les mêmes caractéristiques, le même âge, le même niveau d'éducation, etc., selon que l'un vit en France et l'autre dans un pays proche comme la Belgique, celui qui vit en France a une probabilité, c'est-à-dire statistiquement, il y a moins de chances qu'il se déclare très heureux, c'est-à-dire au-dessus de 8 sur une échelle de 0 à 10, que celui qui vit en Belgique ou aux Pays-Bas.
Ça veut dire qu'on a grandi dans l'idée de notre grandeur passée, c'est ça ?
Il y a quelque chose... Je pense que l'anticipation de l'avenir, l'encre qu'on jette vers le futur, le projet, l'envie de faire des choses, donc l'anticipation, ça constitue un élément essentiel dans le bonheur ou dans le bien-être. Et le fait d'être tourné vers le passé et de se dire qu'on le perd, et au lieu de se projeter vers le futur, est effectivement un facteur de moindre bonheur.
J'aimerais bien avoir l'avis de Claude Almos et d'André Guigaud sur cette dimension culturelle pour expliquer en partie notre pessimisme ambiant.
Alors, moi, je conteste cette histoire de pessimisme. Enfin, je conteste. C'est pas que je conteste, ça me dérange. Ça me dérange parce que quand on parle de pessimisme, on est dans l'ordre de l'imaginaire. Je veux dire par là que c'est l'histoire bien connue de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Le pessimiste, c'est celui qui va l'avoir à moitié vide. Bon, mais ça, c'est une question d'appréciation. Le problème, c'est le moment où, dans une société, à un moment donné, la bouteille, elle est totalement vide et qu'on pense qu'il y a assez peu de chances pour qu'elle puisse se remplir. Ce qui, à mon avis, est ce qui se passe en temps de crise. Et donc ça, on n'est plus dans l'imaginaire et dans l'appréciation. On est dans une réalité. Et je crois que ce qui se passe aujourd'hui, c'est des millions de gens écrasés par une réalité de cet ordre et qui le vivent même personnellement. Ça, je peux le dire parce que je suis psychanalyste, qui le vivent personnellement comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il y a des choses qui se passent qui les écrasent, qui font que leur vie est intenable et ils ne peuvent rien contre. Et je dis dans mon livre que c'est un peu comme s'ils se retrouvaient dans la situation où on a tous été de nourrissons impuissants qui peut rien, tout seul, il peut rien. Et ça, c'est absolument dramatique. Et là, on n'est pas du tout dans pessimisme, pas pessimisme. Moi, c'est vraiment un mot qui me gêne.
Oui, mais j'ai envie de vous rétorquer, Claude Almos. Vous dites, moi, je peux le dire parce que je le constate dans mes consultations de psychanalyse. Mais justement...
Dans la vie aussi.
La psychanalyse, aussi. Et d'ailleurs, ça fait partie d'un de vos chapitres, elle est assez ambiguë sur les frontières qu'il peut y avoir entre ce qui fait partie de la réalité et puis ce qui fait partie de l'imaginaire ou du fantasme. Et vous relevez bien, d'ailleurs, que les psychanalystes ont un petit peu de mal à se confronter à ces questions strictement sociales et très objectives.
De toute façon, les psys de tous ordres, pas seulement les psychanalystes, ont du mal avec le social. Parce qu'on a l'impression que le social, c'est la psychologie sociale, c'est la sociologie, etc. Ce que je dis dans le livre, c'est vraiment par rapport à la réalité, et notamment dans les problèmes de trauma sexuel, de maltraitance des enfants, puisque c'est un de mes combats dans ma carrière. Les psychanalystes, mais les psys de tous ordres ont du mal avec la réalité, avec ce qui se passe de réel dans la vie des gens, c'est-à-dire avec le moment où c'est pas seulement là une question d'appréciation de ce qu'on a vécu, mais où vraiment on est devant une réalité terrible, ce qui est le cas de des abus sexuels sur les enfants, des viols des femmes ou des hommes. Bon, voilà, quand il y a une réalité, un poids de réalité très lourd, c'est difficile pour les psys, et pas seulement pour les psychanalystes.
Alors, je ne sais pas ce qu'en pense le philosophe André Guigou, mais est-ce qu'on est trop peut-être aujourd'hui justement dans l'appréciation, ce qui
laisse négative
trop
du pessimisme
de part au subjectif et pas assez à la réalité sociale, c'est-à-dire celle qui est vécue par les gens qui vivent cette crise directement ou indirectement.
Et qui sont directement touchés par cette crise. Moi, je ne suis pas du tout persuadé que l'optimisme comme tel soit a priori une valeur autonome, une valeur absolue. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières d'être pessimiste ou optimiste. Ce n'est pas le pessimisme comme tel qui fait problème. C'est-à-dire que si on entend par optimisme un déni du réel, tel que l'entend par exemple Claude Almos, et je suis bien d'accord avec elle, évidemment, dans ce cas-là, il s'agit d'une forme d'irresponsabilité vis-à-vis du réel. C'est-à-dire être optimiste dans le sens de pas sentir responsable du mal qui arrive ou de la souffrance que vivent les gens. C'est une manière, à mon sens, coupable d'être optimiste.
Vous écrivez, André Guigou, un état de malheur pourrait soulever des montagnes de bonne volonté contre les mauvaises, être l'occasion d'inventer un autre monde au milieu de celui-ci. Puisque cette révolte-là, elle n'existe pas, est-ce que ça ne signifie pas que nous sommes tous, globalement, dans le déni ?
Je ne suis pas certain qu'elle n'existe pas, mais en tout cas, tout se passe comme si, même si elle existait, eh bien, on n'aurait surtout pas intérêt. Enfin, on aurait. Les pouvoirs en place n'auraient pas forcément intérêt à la valoriser, cette révolte ou douce ou tranquille, ou en tout cas de réinvention d'une autre vie ou d'un autre mode de vie non productiviste a priori.
Claudia Sinek.
Non, mais il me semble que justement, on n'est pas du tout dans la révolte et qu'on est plutôt, en tout cas, plutôt en France plus qu'ailleurs, dans la crispation sur ce qui est, sur les acquis, sur les positions protégées, sur la protection qu'on a obtenue, qu'on cherche à défendre malgré tout. Même si on sent que le monde change, que la technologie modifie complètement les métiers, le marché du travail, etc., qu'il y a plein de choses auxquelles il va falloir vraiment réfléchir à s'adapter avant que ça se fasse tout seul, au lieu de le faire, on pense plutôt à essayer de maintenir à tout prix les protections, je parle du marché du travail, par exemple, en place. Donc on n'en est même pas au stade de... Enfin, quand on a du mal à réformer, a fortiori, on n'en est pas du tout au stade de la révolte. Je pense que...
Sartre l'écrivait, il l'écrivait dans les années 60 dans la critique de raison dialectique. L'individu intériorise la rareté comme manque et comme danger. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est devenu commun. C'est-à-dire que le danger est tellement intériorisé et vécu, c'est que la relation entre individus est vue comme un danger potentiel. On a peur de perdre son emploi, on a peur de souffrir davantage, d'où peut-être le fait de se recroqueviller sur des acquis.
Mais si ce danger est à ce point intériorisé, Claude Almos, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y ait un tel développement d'une catégorie de la psychanalyse qui prône les valeurs positives, l'accomplissement de soi, le développement personnel, pour justement essayer de surmonter la crise, non pas en changeant la société, mais en changeant notre manière d'être pour que ce qui est douloureux, peut-être, le soit moins.
Alors, d'abord, ce n'est pas la psychanalyse. Hein, c'est une partie de la psychologie, mais pas, ce n'est pas les psychanalystes. Les psychologues positivistes ne sont pas des psychanalystes. Mais je crois que y a deux solutions quand quelqu'un est à s'affronter à son histoire, à une histoire difficile ou à une réalité difficile. Ou bien on lui dit qu'il va s'en sortir s'il la regarde en face, s'il la décortique, que s'il la prend en main et si à partir de là il voit à quoi il a affaire et il cherche des solutions pour s'en sortir, c'est la voie à mon avis la plus efficace. Si je pensais pas ça, je serais pas psychanalyste, mais c'est évidemment la plus difficile. Ou alors on lui dit pense à autre chose et ça va sûrement passer. Et d'ailleurs on sait bien que quand quelqu'un dans l'entourage de quelqu'un d'autre vit une situation difficile, la première tendance en croyant l'aider, c'est de lui dire pense à autre chose, tu vas voir, ça va s'arranger, etc. Bon, bonnes paroles qui n'ont jamais rassuré que ceux qui les prononce, on le sait bien. Hein. Mais c'est une tendance qui existe. Alors, ce qu'il faudrait effectivement étudier, c'est pourquoi aujourd'hui, et c'est à mon avis très intéressant à essayer de comprendre, pourquoi aujourd'hui ça prend une telle ampleur. Moi, je ne suis pas compétente pour répondre à la question que je pose. Pour autant, je pense que, par exemple, ça a de façon très évidente une fonction politique. Ce n'est probablement pas une volonté politique délibérée de la part de ceux qui tiennent ces propos-là. Mais regarde les petits oiseaux comme ils chantent bien et oublie que tu n'as pas de boulot. C'est quand même une théorie. On voit bien à quoi ça peut servir. Hein.
André Guigaud et Claudia Sénic, il y a une fonction politique dans cette façon qu'on a de nous vendre du bonheur.
Je pense qu'il y a une fonction politique qui est en fait une fonction sociale également, une fonction normative. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être heureux au sens d'être performant dans tous les domaines, que ce soit le sport, la santé, la famille, la sexualité, l'école, l'éducation, l'entreprise. Et si on est heureux autrement, d'une autre manière, alors on perd un statut ou le droit d'être heureux. Ça veut dire que c'est une fonction normative, c'est un véritable pouvoir qui est en place, et pas seulement une image qu'on se fait de la société. C'est pas une image neutre, l'image du bonheur qui est vendue, et en rappelant que le chiffre de vente ou des livres et des revues consacrées au bonheur a été multiplié par 6 ou 7, je crois, en 5 ans. Enfin, c'est de cet ordre-là, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Si dans une démocratie, le nombre de livres consacrés à la liberté d'expression ou au droit de parler, par exemple, tout simplement ça a été multiplié par 6 ou 7 en quelques années, on aura le droit de s'inquiéter dans une démocratie. Or, on ne s'inquiète pas par rapport au bonheur, précisément parce qu'il s'agit bien d'une norme qui est en place, et non pas seulement d'une image neutre.
Enfin, je remarque quand même, André Guigaud et Claudia Sénic, que le terme de bonheur, il est dans le titre de vos deux livres. Ça vous permet peut-être aussi d'être un peu plus visible et voire davantage lu, Claudia Sénic.
Moi, je n'ai pas réfléchi dans mon ouvrage à la psychologie positive, mais pour une fois, vous avez l'air de mettre ça du côté de l'offre. Moi, pour une fois, je vais me mettre du côté de la demande. Je pense qu'on est on vit dans des sociétés relativement, très prospères. Pour la première fois, ma génération a pu vivre sans connaître la guerre, pour l'instant. Finalement, la quête du bonheur, la question de savoir comment vivre pour être heureux, dans votre livre que j'ai lu cet après-midi, on voit que c'est la question qu'on se pose depuis toujours, que la philosophie se pose. Donc c'est vraiment l'aspiration légitime des gens et des individus, savoir comment faire, que vivre, comment vivre, comment se sentir bien. Donc après, est-ce que ces manuels de bien-être donnent la réponse? Moi, je crois pas, j'en ai jamais lu un seul, pourtant ça va. Mais
je vais peut-être vous donner l'occasion d'en lire un, en tout cas de vous rendre dans une librairie, Claudia Sénic, qui a un rayon bonheur et développement personnel particulièrement bien fourni. Mélanie Chalandon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes justement allée ce matin dans une librairie parisienne, donc je le disais, avec un rayon développement personnel particulièrement bien doté. Je dois dire que quand vous êtes revenue, je vous ai trouvé un petit peu tristounette, vous disiez grise mine. Ça vous a déprimé d'aller dans le rayon bonheur?
C'est possible Hervé, et d'ailleurs peut-être aurais-je dû moi aussi faire l'acquisition de l'un de ces nombreux manuels du bonheur proposé par la librairie Erol. Cela m'aurait peut-être aidé à positiver, à voir les choses autrement, comme le prônent justement ces ouvrages. Ainsi, je ne serais pas rentrée avec la sensation un peu déprimante, je dois le dire, que pour être heureux, eh bien, il faut faire des efforts. Le bonheur n'est pas inné, nous disent les spécialistes, il s'apprend. Et donc au rayon bonheur de la librairie, donc je ne l'invente pas, il y a bien une étiquette bonheur sur un rayon. Les manuels proposent leur aide à grands coups d'exercices, de conseils, rédigés généralement à l'impératif. On lit « Ne vous souciez pas du regard des autres » ou encore « Mangez ce qu'il vous plaît, osez être vous-même » et surtout « Oubliez la culpabilité ». Voilà en partie ce que viennent chercher les clients du rayon développement personnel de la librairie. Et c'est ce que m'explique son responsable Jean-François Rossi.
Les conseils restent toujours quels sont les livres qui vont m'aider à mieux gérer mon stress, m'aider à lâcher prise. Donc ce sont des thématiques bien précises. Et là, on a des livres qui vont les aider à passer ces caps difficiles pour eux. Ils vont éditer aux éditions Erol une collection qui s'appelle Essi, et un des derniers ouvrages sortis de Capucine Berlier s'intitule Essi, je choisissais d'être heureux. Donc qui est Le bonheur mode d'emploi, donc qui est un véritable manuel avec des conseils pratiques. Donc, ce sont des livres pour aller mieux vivre sa vie, dans sa vie personnelle, professionnelle, dans son couple. Donc vous avez de nombreux ouvrages et vous avez des véritables gourous maintenant, comme Christophe André, comme Tahar Ben Sahar ou Mathieu Ricard. Donc vous avez des approches à la fois philosophiques, spirituelles, voire même scientifiques du bonheur. Et nous étions d'ailleurs présents il y a quelques semaines sur le Salon Zen et on a vu qu'il y avait un véritable engouement pour ces livres.
France Culture, du grain à moudre.
Hervé Gardette.
Allez, nous interrogeons ce soir sur la quête effrénée du bonheur, sur les effets de celle-ci, puis dans un instant sur la façon qu'on a de mesurer également le bonheur. Nous le faisons avec Claudia Sénic, André Guigaud et Claude Almos. J'ai vu que vous étiez très attentive à ce que vous entendiez, Claude Almos. Est-ce qu'on peut dire qu'en tout cas, le message global qui est délivré par ces ouvrages, c'est de dire n'attendez rien de solution collective et de la société. La solution, c'est vous-même qui l'avez, donc c'est à vous de vous prendre en charge et d'être responsable.
Alors c'est là que c'est grave, parce que effectivement, c'est Alors d'abord, il faudrait qu'on m'explique un jour ce que c'est que le bonheur avec un B majuscule. Mais même si on laisse ça de côté, c'est toujours des solutions individuelles. Donc c'est sur la négation du collectif. Et ce qui me paraît aussi grave, voire plus grave, c'est toujours avec l'idée qu'on peut être heureux, quelle que soit la vie que l'on ait. C'est-à-dire en niant encore une fois la réalité de sa vie, la réalité sociale notamment, qui aujourd'hui pèse extrêmement lourd. Ce qui veut dire que quand on explique à quelqu'un, mon petit vieux, tu peux être heureux, tu vas faire les exercices, tu vas, bon, et qu'il n'y arrive pas, et qu'il ne risque pas d'y arriver, vu que ce qu'il a à vivre tous les jours, c'est quand même pas terrible, voire, comme je l'ai déjà dit, invivable, et ben, il ne peut que se dire que c'est lui qui ne va pas. Et donc, c'est tout à fait culpabilisant au bout du compte. D'une part, c'est culpabilisant, et d'autre part, cette espèce de façon de centrer les gens sur leur nombril, évidemment, les met extrêmement loin du collectif. Et si on sait qu'on est dans une société, on sait par ailleurs qu'on est dans une société où le collectif, les syndicats, etc., tout ce qui avant pouvait être des lieux de rassemblement, ça fonctionne plus, ça fonctionne de moins en moins, pour l'instant, on n'a pas inventé des choses qui puissent vraiment les remplacer. C'est extrêmement grave, parce que ces lieux collectifs, qu'ils aient été des syndicats ou autre chose, ils permettaient d'abord de trouver un sens, d'avoir un discours qui expliquait la souffrance dans laquelle on était, de trouver des perspectives de combat, et puis de trouver les autres. Et les autres, on recevait d'eux, mais on leur donnait, et comme on leur donnait, on se rendait compte qu'on n'était pas complètement n'importe quoi comme on le croyait. Et donc c'était quelque chose où on pouvait se ressourcer vraiment. Et d'ailleurs, de façon générale, on sait bien, qu'on soit psy ou pas d'ailleurs, que dans les situations vraiment terribles, et l'histoire nous l'a montré, enfin les camps, etc., on ne résiste pas tout seul, on résiste à plusieurs, on se met à plusieurs. Hein. Et par exemple, dans les thérapies, et tous les gens qui travaillent avec les vétérans du Vietnam, avec, etc., savent bien qu'il faut que le thérapeute, par exemple, il se mette avec la personne. Il faut vraiment, quelqu'un appelle ça faire corps à plusieurs, ça me semble vraiment quelque chose de très important, il faut être avec les autres. Et là, on dit non, sois tout seul, et puis encore une fois, quelle que soit ta vie, ça va le faire, tu vas être heureux.
Claudia Sénic, vous qui avez donc travaillé sur cette mesure du bonheur, quand on mesure le bonheur, c'est un bonheur collectif qu'on mesure ou c'est d'abord un bonheur individuel ?
Non, nous on mesure le bonheur individuel, c'est-à-dire ce que les individus pensent, mais pas un individu, en fait des dizaines de milliers d'individus qu'on suit dans le meilleur des cas pendant des dizaines d'années. Et donc on se pose
donc c'est sur du déclaratif.
C'est sur du déclaratif, c'est sur du subjectif, mais la question qu'on se pose, c'est pas comment faire pour que quelle recette lui donner à l'individu. C'est au contraire de révéler par ces réponses qui ont l'air d'être un peu hasardeuses à première vue, etc. De révéler qu'est-ce qu'on a entre les mains, qu'est-ce qu'on a comme manette pour améliorer justement les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions d'activité économique. Est-ce que dans l'économie, dans les institutions et dans la politique, il y a des choses dont on peut penser avec pas mal de certitude qu'elles sont plus favorables au bonheur des gens ou au bien-être ? Est-ce que plus de démocratie locale ? Est-ce que tel type de gouvernance dans le travail ? Est-ce que la croissance ? Est-ce que les inégalités, au contraire, tout ça, ça rend les gens heureux ou pas ? Donc il s'agit vraiment de porter un diagnostic sur l'état du collectif ou du social et d'apprendre des choses sur les conditions du bonheur subjectif.
Vous expliquez dans votre livre...
En lisant le livre de Claude Almos, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que c'est exactement la même chose que vous dites en plongeant en profondeur dans des cas particuliers. Nous, on le fait un peu en systématisant. C'est-à-dire tout ce que vous dites sur le fait que tous n'en mouraient pas, mais tous étaient atteints. Donc le chômage angoisse tout le monde, même ceux qui n'en sont pas, qui ne sont pas directement concernés, parce que en fait, c'est un risque. On sait que si ça nous arrive, on va rester dans un chômage de longue durée, on aura du mal à retrouver un emploi, en tout cas en France. Et donc, en fait, ça, tout le monde est relativement inquiet. Ça, les travaux dans mon champ de recherche montrent qu'effectivement, c'est le cas. Et plus le marché du travail est rigide, moins ça tourne, quoi, plus les gens sont angoissés par le chômage.
Sauf qu'êtes-vous dans votre champ de recherche, Claudia Sénic? Vous cherchez à mesurer le bonheur, vous ne cherchez pas à évaluer le malheur. Quand on cherche le bonheur, c'est pas tout à fait la même démarche que de chercher le malheur. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément trouver derrière des solutions qui permettraient de diminuer ce niveau de malheur dans les sociétés.
Si, bien sûr.
Ça revient exactement au même.
Oui, c'est une échelle. On peut se concentrer sur, on peut considérer l'échelle comme un continuum. Là, on peut aussi se concentrer sur le bas de l'échelle et voir qu'est-ce qui fait que les gens se placent au bas de l'échelle, qu'est-ce qui est pire. Par exemple, le chômage, c'est une des rares choses dans la vie auxquelles on s'habitue pas. C'est-à-dire, on s'habitue au mariage, on s'habitue au divorce, on s'habitue à plein de choses, mais être au chômage, on ne s'y habitue jamais. Quand on suit les gens au cours du temps, on se rend compte que leur niveau de bonheur ne remonte pas au bout d'un moment.
Donc si on veut que les gens soient heureux, il faut lutter contre le chômage. C'est ça le message qu'il faut retenir, André Guigaud.
Je considère vraiment que le bonheur, ce n'est pas un idéal moral autonome, quoi. Rechercher le bonheur pour le bonheur.
Est-ce que ça doit être un objectif politique ?
Ça peut être qu'un objectif politique.
Est-ce que c'est pas dangereux ?
Associé avec la justice, avec une certaine idée de la liberté, et pourquoi pas de la vérité d'ailleurs, ou un certain type de vérité, mais c'est pas un idéal moral autonome. Vouloir être heureux pour être heureux, ça me paraît ni efficace, et ça me paraît moralement discutable par-dessus le marché. C'est-à-dire que, alors là, on pourrait citer Kant, hein, qui considérait que le but, c'est pas de vouloir être heureux ou d'y parvenir, mais se rendre digne du bonheur qu'on éprouve. Alors, je sais bien que la dignité, c'est peut-être un gros mot, c'est devenu un gros mot, mais il se trouve que si on fait du bonheur une performance à court terme, et si on évalue les gens uniquement sur ce qu'ils sont capables de produire, alors là, la dignité, elle disparaît complètement, quoi.
Mais alors, quand on mesure le bonheur, est-ce qu'on ne fait pas du bonheur, justement, une performance ? Parce que le mesurer, c'est lui donner une forme arithmétique.
Je ne suis pas certain, parce que justement, quand les gens disent, si on mesure dans le continuum que vous décrivez, du malheur au bonheur, il y a bien des éléments objectifs qui déterminent l'image des individus ou l'image que les individus se font d'eux-mêmes, dans le bas de l'échelle, par exemple. Et ça donne le moyen, peut-être pas d'être heureux pour être heureux, mais de combattre. C'est-à-dire que là, la sociologie, l'économie, la psychanalyse ou la philosophie redeviennent des sports de combat.
Claude Almos ?
Moi, je vais faire ma mauvaise élève. Je pensais à cette expression, les imbéciles heureux. Mais parce que ce qui me paraît tout à fait vertigineux dans tout ce débat, mais de façon générale, c'est qu'on nous vend le bonheur partout, effectivement, comme dans les rayons de livres, là. Mais on ne nous dit pas ce que c'est le bonheur. Moi, par exemple, en tant que psychanalyste, l'appréhension que j'ai du bonheur, c'est que d'abord, les gens y viennent parce qu'ils sont malheureux pour essayer d'être moins malheureux. Je pourrais dire le bonheur, c'est quand on n'est pas malheureux. Mais de toute façon, quand on est heureux, c'est quoi ? On est heureux par moment, d'abord, et puis par rapport à des choses, par rapport à une relation, par rapport à la musique rend heureux, un tableau vous rend heureux, manger une bonne choucroute, ça peut vous rendre heureux, discuter avec quelqu'un que vous aimez, faire l'amour. Bon, c'est des moments. Là, on nous vend une espèce d'état dont on oublie tout à fait, un espèce d'état dont on oublie de nous dire ce que c'est. Mais enfin, c'est hallucinant. Et encore une fois, on ne prend pas en compte la vie réelle des gens. Ce que dit Claudia Sénic, c'est très important pour moi, psychanalyste par exemple. Cette histoire qu'on ne s'habitue pas au chômage, ça a l'air, bon, c'est évident. Évidemment, une évidence. Dans le livre, j'essaye d'expliquer pourquoi c'est si grave, c'est-à-dire d'expliquer la construction sociale de l'être humain et à quel point la dimension sociale d'une personne, sa vie sociale, c'est constitutif de lui autant que sa vie privée. Et que quand on est au chômage, on est amputé véritablement de sa vie sociale et que donc on ne peut pas s'habituer à ça. On ne s'habitue pas au fait d'avoir eu un bras et qu'on vous le coupe, quoi.
Mais même si on définit un peu scolairement le bonheur comme un état de satisfaction durable, là, d'abord, c'est très subjectif et ensuite, je ne suis pas certain qu'il faille forcément le vouloir de cette façon-là à tout prix. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que le bonheur est ou a une valeur ? C'est sans doute la question de fond qu'il ne faut pas éviter.
Bon, je vais faire quelque chose qui ne se fait pas. Je vais cafeter. Claudia Sénic, avant l'émission, m'avait dit j'imaginais que vous alliez nous demander à tous ce que c'était que la définition du bonheur. Donc j'y ai un petit peu réfléchi. Ah. Bah, puisque vous y avez réfléchi, dites-nous, essayez de répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est que le bonheur ? Alors, du point de vue de l'économie, peut-être ?
Du point de vue de l'économie ?
Ou de votre point de vue, alors ?
Non, mais du point de vue de l'économie, enfin, c'est différent. Non, le bonheur,
parce que quand on veut mesurer le bonheur, il faut bien savoir ce qu'on mesure.
Non, justement, non. Justement, nous, on a une approche complètement agnostique, nihiliste. C'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas essayer de dire aux gens il faut que vous visiez la dignité, le sens, le sérieux, la vertu, la morale, etc. En fait, on demande aux gens s'ils sont heureux. C'est à eux de faire leur petite cuisine et de pondérer les différents éléments de leur vie en fonction de l'importance que ça a pour chacun. Et ensuite, ils nous donnent la réponse et ensuite, nous, on analyse les données. Donc justement, on les laisse totalement libres. Et c'est pour ça qu'on apprend des choses sur ce qui constitue le bonheur. Parce que si on leur demande « est-ce que vous êtes heureux au sens de la vertu ?», là, on apprendra que ce qu'on a mis dans la recette. Donc, on n'a pas besoin de donner de définition. Après, chacun a sa définition du bonheur.
Puisque vous servez beaucoup de comparaisons internationales dans votre livre « L'économie du bonheur », Claudia Sénic, est-ce qu'on a des preuves, si ce n'est de l'utilité, en tout cas de l'usage des données qui sont faites et qui sont recueillies par les économistes du bonheur ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des politiques qui essaient justement de corriger certains effets ou en tout cas certaines absences d'état de bien-être dans des sociétés ?
Bah on apprend plein de choses. Moi, je suis quand même personnellement assez partisane d'une analyse positive, c'est-à-dire d'essayer déjà de comprendre ce qui est avant de dire ce qu'il faut faire. Donc déjà comprendre si les inégalités rendent les gens malheureux et dans quelles conditions. si les gens se comparent, si les comparaisons de revenus, donc si la structure des salaires compte beaucoup dans une entreprise. Déjà, essayer de comprendre quels sont les ingrédients, quels sont les conditions du bonheur. Après,
pour répondre par l'affirmative d'ailleurs, oui, les inégalités, ça rend malheureux.
Donc les inégalités rendent malheureux quand elles sont perçues comme étant des choses totalement injustifiées et pas des opportunités ouvertes à tous.
Donc il faut lutter contre les inégalités pour qu'on soit plus heureux.
Il faut lutter contre les inégalités quand elles apparaissent pas comme des positions ouvertes aux gens. Quand les gens ont l'impression qu'il n'y a aucune mobilité sociale, aucune méritocratie, etc., forcément ça les rend malheureux.
Mais est-ce que ça veut dire, pardonnez-moi, j'insiste un peu, c'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que si dans vos études, on vous dit, oui, il y a de l'inégalité dans la société, mais ça nous rend, on est quand même heureux. Ça veut dire que la conclusion, en tout cas l'étape d'après, c'est de dire c'est pas la peine de toute manière de lutter contre ces inégalités-là, puisque tout le monde est heureux.
On apprend que dans une société plus mobile, où les gens ont l'impression qu'il y a plus d'opportunités, effectivement, ils sont peut-être d'accord pour un peu plus d'inégalités, si c'est en échange d'avoir un peu plus de croissance, un peu plus de prospérité pour tous. On apprend des choses de ce type-là. Après, pour répondre à la question d'avant, les politiques utilisent aussi ces mesures comme des indicateurs pour savoir si une mesure va dans le bon sens ou pas. Est-ce que les gens sont plus inquiets de perdre leur travail, encore une fois, en France, par rapport à l'Angleterre, et pourquoi ? Est-ce que par exemple, il y a une étude récente, j'ai assisté à un séminaire la semaine dernière de Philippe Aguillon, qui vient d'être nommé, au Collège de France, qui montre que le turnover, donc le taux de rotation dans les emplois, le fait qu'il y ait plus de destruction et de création d'emplois, et qu'il y ait moins de chômage de longue durée, c'est vraiment lié à une moindre inquiétude et à une plus grande satisfaction des gens dans le travail et dans la vie. Donc on apprend quand même des choses sur quelles sont les caractéristiques du marché du travail qui sont plus ou moins propices au bien-être des gens.
André Guigaud, est-ce que c'est plutôt rassurant ou plutôt inquiétant de se dire que les politiques se servent de ces indicateurs ?
Alors, si ce sont les politiques, c'est plutôt rassurant, mais je crains que ce soit aussi un outil marketing, c'est-à-dire que ce soit aussi une manière de faire du bonheur ou du bien-être un mode de légitimation des hiérarchies, des inégalités existantes dans le domaine du travail ou la production en général. C'est-à-dire que si on fait passer l'idée qu'au fond, on peut être heureux, quelles que soient les conditions sociales ou les conditions de vie, pourvu qu'au bout du compte, eh bien, l'individu soit en accord avec lui-même, soit se ressente lui-même, soit en accord avec sa propre identité, alors si tout change, rien ne change. Il n'y a aucune raison de changer l'état des choses.
Est-ce que vous ressentez ça dans vos consultations, Claude Almos, une forme de pression sociale auprès de vos patients qui se forcerait presque à être heureux, ou en tout cas à répondre à l'image qu'on se fait du bonheur dans notre société ?
Sous cette forme-là, non, mais si je pensais à ça à propos de ce que disait Claudia Sénic, il y a des gens qui, par exemple, face aux inégalités, ils sont pas malheureux. Mais vous savez, dans la pratique des psychanalystes, on voit des gens qui disent des trucs du genre « Oh oui, mais enfin, moi, je viens d'une enfance, c'est vrai, ma mère m'aimait pas, mon père non plus, ils aimaient que ma grande sœur, mais ça me faisait rien du tout. » C'est-à-dire qu'il y a une capacité d'adaptation et évidemment, tout le travail, c'est de se rendre compte que ils s'en rendaient sans doute pas compte consciemment, mais ça leur faisait. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'ils sont venus un jour voir un psychanalyste. Donc l'appréhension qu'on a de ça, c'est pas forcément un critère de vérité. Hein.
Ça veut dire qu'une personne qui se dit heureuse ne l'est pas forcément.
Non. Enfin, mais c'est, en plus, c'est impossible de répondre à votre question parce que une personne se dit heureuse, c'est-à-dire elle définit un espèce d'état, mais ne l'est pas forcément. Ça supposerait qu'on définisse quel bonheur. Mais là, pour l'instant, on est en débat pour essayer de savoir ce que ça peut être le bonheur. Ce qu'on peut, c'est avoir des critères un peu plus simples et de se dire est-ce que ça lui permet de vivre, est-ce que ça lui permet de d'avoir des relations comme elle aimerait en avoir, de pas être enfermée chez elle toute la journée.
C'est la psychanalyste qui plaide pour l'objectif et l'économiste qui plaide pour le subjectif.
Bah oui, parce que moi, quand je vous entends dire que les inégalités, on se rend compte que quand il y a moins d'inégalités,
c'est une étude qui montre comment les Européens et les Américains réagissent quand les inégalités de revenus augmentent au cours du temps dans un des États américains ou dans un des pays européens. Et on voit que c'est différent parce que les gens ne perçoivent pas leur société de la même manière. C'était ça l'histoire entière. Mais mais comme vous le dites, en fin de compte, on n'en sait rien de ce qu'il y a derrière. Donc finalement, la seule chose qui compte peut-être ultimement, c'est ce que les gens se disent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pensent de leur propre vie. S'ils se sentent heureux et s'ils se disent qu'ils sont heureux, c'est vrai que c'est une mesure très imparfaite et on ne sait même pas ce que c'est que cette mesure, mais ça corrèle quand même avec de la structure sociale. Et finalement, on ne peut pas aller plus loin.
Oui, mais donc, à condition qu'ils puissent le dire. Parce que par exemple, un des problèmes aujourd'hui que vivent les gens, pas seulement ceux qui sont dans mon cabinet, mais ceux que je peux rencontrer dans toute la vie, c'est que ce qu'ils éprouvent par rapport à leur vie sociale, par exemple, ils n'osent pas le dire. Parce qu'il y a une honte, il y a une honte à avouer ses peurs, justement parce que personne n'en parle, bien pour ça que j'ai écrit ce livre. Il y a une honte à dire ses peurs, il y a une honte quand on a un certain statut social à dire j'ai peur du déclassement, parce qu'on a l'impression que les copains vont penser que finalement on n'était pas si bien que ça et que c'est pour ça qu'on est vulnérable. C'est pas non plus, ça va pas de soi non plus, l'idée de dire. Aujourd'hui, c'est bien le problème, c'est qu'il y a des millions de gens qui souffrent et qui n'osent pas le dire, et en plus, on ne les aide pas à le dire. C'est bien contre ça que je me bats.
Je pense que, pour aller dans le même sens, l'existentialisme a gagné, mais a gagné en étant dévoyé, au fond, a été trahi. C'est-à-dire que Sartre et puis la phénoménologie, enfin une partie, définissaient l'individu, l'homme était ce qu'il faisait de lui-même. Au fond, l'individu se sentait libre dans la mesure où ils étaient... Sartre disait que c'était un optimisme de dureté. Voilà, il s'agissait de définir l'homme par ses actes. Sauf qu'aujourd'hui, on a gardé une partie de cela, et puis on l'a coupé en deux d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'homme se définit uniquement par ce qu'il produit. Si je suis uniquement ce que je fais, eh bien, sous-entendu ou implicitement, si je ne produis plus ou si je ne suis plus assez performant, j'existe moins, et pour moi-même, et au sein de la société. Et donc, dans une période de crise, au fond, où toute une partie de la population est devenue de fait moins productive, moins performante, ils se sentent moins exister en situation d'échec ou de culpabilité, et qui, en fait, à mon avis, est la face noire de la responsabilité.
Donc il y a une forme de conformisme dans l'affirmation de son propre bonheur.
Ah oui, c'est vraiment un opium du peuple, hein, l'idéologie du bonheur comme performance telle qu'elle est vendue aujourd'hui.
Alors il y a quand même, heureusement, des études statistiques qui s'effectuent suffisamment sur la longueur, Claudia Sénic, pour essayer aussi d'atténuer, on va dire, qu'on pourrait appeler les variations saisonnières en météorologie. Et moi, j'ai appris en lisant votre livre. Alors bon, les études sur le bonheur, elles sont malgré tout récentes, c'est les années 70, mais c'est quand même un temps suffisamment long pour voir des grandes tendances. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les Français, qu'on dit particulièrement pessimistes, et plus pessimistes que leurs voisins européens notamment, bien, ils le sont depuis qu'on mesure le bonheur, depuis les années 70. J'en tirais une conclusion, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais est-ce que finalement notre pessimisme ne serait pas le signe de notre anticonformisme, justement ?
Oui, un esprit français qui met l'intelligence au-dessus de tout, avant les émotions, avant ce que vous disiez, imbécile heureux, la naïveté du bonheur, c'est un mot qui a l'air tellement simple. Oui, c'est peut-être aussi une manière de... Oui, une
sorte notre de, façon de résister voilà, à cette injonction au bonheur.
Il y a peut-être ça, donc il y a des aspects culturels, effectivement, d'attitude par rapport à ce qu'on doit faire, le sens versus le bonheur. Je pense qu'il y a quand même aussi une cristallisation de pessimisme, crispation... Il y a les deux. Enfin, ce qu'on appelle culturel, finalement, c'est le fait que des attitudes mentales persistent au-delà de la cause qui les a provoquées initialement. Ça reste, et ça, donc, c'est sui generis, quoi. Ça devient culturel. Il y a quand même, à un moment donné, des causes. Ça c'est pas destiné à être là pour toujours. C'est ce que je voulais dire. Cet esprit français, il n'est pas forcément destiné à perdurer indéfiniment. Il est lié à certaines causes, et ça peut changer si les institutions changent, quand même.
Mais l'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'il est possible de conserver une forme de contestation d'un idéal normatif du bonheur, et puis parallèlement à cela, défendre une forme de liberté, d'un bonheur retrouvé, d'un autre.
Et cette défense de la liberté, je voudrais juste, on n'a plus beaucoup de temps, une trentaine de secondes, mais comme vous connaissez bien la radio, Claude Almos, vous allez réussir, ça passe par exemple par l'école.
Vous voulez dire la liberté ?
Oui, défendre peut-être des valeurs qui nous permettent d'être heureux, mais autrement que par cette espèce de conformisme ambiant.
C'est fondamental, l'école. Mais l'école, elle doit aussi aujourd'hui expliquer aux enfants la situation sociale de leurs parents. Ça leur éviterait de grandes souffrances. Et surtout, expliquer aux enfants que ce n'est pas parce que leurs parents sont des incapables qu'ils n'ont pas de boulot aujourd'hui, c'est parce que le système économique fait qu'on ne leur en donne pas. Et l'école, c'est l'endroit où on pourrait vraiment apprendre les valeurs aux enfants.
Ce qui est sympathique dans votre livre, c'est que vous concluez sur la nécessité de renforcer l'enseignement de l'économie.
Voilà, l'économie, il faut effectivement l'enseigner.
Et tous les autres.
Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Claude Almos,
Est-ce ainsi que les hommes vivent chez Fayard, Claudia Sénic, l'économie du bonheur, le seuil, la république des idées, André Guigaud, pour en finir avec le bonheur aux éditions Bayard. Vous êtes heureux, vous êtes malheureux, vous avez des choses à dire sur cette discussion, n'hésitez pas à vous exprimer sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre, émission que vous pouvez réécouter pendant 1000 jours, télécharger pendant un an. Demain, nous nous intéresserons à la bataille de Kobané, comment cette ville syrienne est devenue le symbole médiatique et peut-être idéal de la guerre en cours.